Bonjour, vous êtes bien sur Radio PFM 99.9 pour l'émission L'Atelier du Plaisir, un moment où l'on peut s'exprimer. C'est un projet en partenariat avec le Centre Hospitalier d'Arras et le Conseil Général.
Nous allons vous présenter trois reportages. Le premier sur la SPA avec Madame Delannoy et Madame Thibault. Le second sur une pièce de théâtre intitulée « On s'en fout ». Et le troisième sur Béatrice Coton qui nous exprime sa passion pour la musique et le chant.
Des micro-trottoirs sur la protection de la planète, sur l'augmentation des mutuelles de santé, sur la dépression et nous terminerons par des chroniques, le tout ponctué de musique et de virgules poétiques.
Dans l'émission L'Atelier du Plaisir, Madame Delannoy, déléguée présidente de la SPA d'Arras, répond à nos questions.
Comment fonctionne votre association SPA d'Arras, s'il vous plaît?
Alors, c'est une association, donc elle fonctionne avec des dons et des legs, essentiellement. Il n'y a pas de subvention, aucune subvention. Et donc, tout arrive à Paris et c'est Paris qui répartit dans toutes les SPA de France. Ensuite, au point pour l'organisation au niveau de la SPA, on a une équipe de salariés de 6 personnes et 2 personnes à l'accueil. Dans les 6 personnes, il y a un responsable employé. Et à côté de ça, de côté de ces employés qui sont rémunérés par la SPA de Paris, il y a les bénévoles comme moi, qui suis la présidente, comme Michel Ric, qui est trésorière, et Hilaire Maquin, qui est secrétaire. Ces personnes-là sont tout à fait bénévoles. C'est le but de l'association, quoi. Dans toute association, c'est la même chose, quoi.
Quels animaux recueillez-vous?
Alors, on recueille tous les animaux abandonnés, d'abord pour différentes raisons. On peut parler de divorce, d'allergies, beaucoup d'allergies en ce moment. C'est un peu le mot à la mode, quoi. Allergies, aussi... Les grands-parents qui partent en maison de retraite, les enfants ne reprennent plus les animaux, donc ils arrivent chez nous. Mais il y a un tas de raisons. Je trouve que les gens ont beaucoup d'imagination parce que moi, je n'irai pas jusqu'à... Mais alors, je ne sais pas, on pourrait donner une vingtaine de raisons, vraiment... N'importe quoi, pour dire d'abandonner l'animal, ils ne tiennent qu'à une chose, c'est pouvoir se débarrasser de l'animal. Et pourquoi ils se débarrassent de l'animal? Parce que souvent, il est pucé ou tatoué. Alors, ils ne peuvent pas l'abandonner n'importe où parce qu'il serait vite rendu au propriétaire. Donc, ils sont bien obligés de passer par une SPA, quoi. Alors, ou par une fourrière. Alors, bon, on ne peut pas refuser un animal abandonné hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va devenir après. Donc, nous prenons tous les animaux abandonnés, plus les animaux aussi en souffrance. C'est-à-dire que lors des enquêtes, si on voit un animal qui est maltraité, on a le droit, après plusieurs, bien sûr, visites, on a le droit de le prendre. Mais pour ça, il faut un abandon du maître. Alors, on joue un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, on joue un peu sur le chantage. S'il n'abandonne pas l'animal en faveur de la SPA, eh bien, nous, on porte plainte. Et après, c'est plainte au procureur et passage au tribunal, quoi. Hein. Donc, on leur fait un peu peur et ils nous donnent l'animal, souvent.
Hein. Recueillez-vous uniquement les chiens et les chats à la SPA?
Non, on recueille aussi, on a recueilli déjà des lapins, des rats, cochons d'Inde. On a aussi des colombes, on a un pigeon, mais les animaux comme les cochons d'Inde et puis les lapins sont vite replacés. Bon, on n'a pas un grand nombre de ces animaux-là et en général, on les redonne à d'autres personnes que l'on connaît contre bon soin, quoi. Donc, ils ne restent pas longtemps à la SPA. D'accord. Mais on est tenu même de prendre n'importe quel animal, mais même des serpents, quoi.
Hein. Ah oui, il n'y a pas de critères de sélection.
Non. Tous les animaux sont au même niveau. Des oiseaux aussi, oui, qu'on a recueillis.
Et ça vous fait pas peur, certains animaux?
Jusque maintenant, on n'a pas eu trop peur, non. Sauf pour les souris, parce qu'on avait recueilli des souris dans notre... dans le garage. Ouais. Une maman avec sa portée. Alors là, on les a recueillis, on les a mis dans une boîte, et puis après, on les a relâchés dans la nature, quoi. On les a pas... On leur a pas fait mal, quoi. Mais ça, j'aimais pas, parce que les souris, oh, ça courait un peu partout.
Quelles sont les conditions de l'adoption, s'il vous plaît?
Donc, en premier, on demande si les personnes ont une maison ou un appartement. parce qu'on ne place pas, bien sûr, de grands chiens en appartement. Donc, si les personnes nous disent oui, on a une maison, on demande s'ils ont c'est bien clôturé, pour que puisque le chien, bon, puisque quand même il y a de l'espace pour sortir, pour pas qu'il soit toujours enfermé dans la maison. Alors après les conditions, donc on fait un contrat. On demande aux personnes donc une pièce d'identité, justificatif de domicile. Et maintenant, bon, c'est tout nouveau. Maintenant, on demande la dernière fiche de paye d'une des personnes, bon, pour faire le contrat. Remplit le contrat, on marque, bien sûr, on explique aux personnes que le chien est vacciné, rappel de vaccin fait, tatoué. Il est stérilisé ou castré, ça dépend si c'est mâle ou femelle. Et que dans les 15 jours qui suivent l'adoption, si la personne a un souci, si l'animal, on ne sait jamais, bon, qu'il y a un petit souci de santé, ils nous contactent et on leur fait un bon, on prend en charge en plus les soins justement dans les 15 jours qui suivent l'adoption. Mmh. C'est un chien, 110 euros. Si c'est une femelle, c'est 130. Si c'est un chat, c'est 70 euros. Et si c'est une chatte, 100 euros. En plus, pour les chats, tous les chats, ils sont bien sûr testés. Et ce test, bien sûr, on peut le faire qu'à l'âge de 3 mois. Donc, quand il y a des chatons, bon, qu'ils arrivent, on les laisse quand même ensemble parce qu'on ne voudrait pas qu'ils partent trop tôt. Donc, souvent, les personnes viennent le chercher vers l'âge de 2 mois et demi, 3 mois, qui sont bien sevrés, surtout. Et bon, après, tous les animaux qui sont adoptés, il y a quand même un suivi. Donc, dans la semaine qui suit, on contacte les personnes qui ont adopté les animaux par téléphone pour avoir un si tout va bien. Et on est dans le mois qui suit, enfin, on essaye d'y aller dans le mois qui suit, par surprise, voir l'animal si tout va bien.
Lorsque les animaux sont adoptés, y a-t-il des problèmes d'attachement affectif par rapport au personnel ?
Oui, oui. Parce qu'il faut penser que le personnel, tous les jours, va avoir l'animal dans son chenil, le met en cours de détente. Il y a des cours de détente aussi, hein. Mais lui parle, le caresse, l'entretient, lui donne à manger, lui donne à boire, lui nettoie son chenil. Et à chaque départ, c'est toujours quand même un serrement de cœur, hein. On sait que l'animal va partir, on ne peut pas le garder tous les animaux, mais je crois que ça fait toujours un petit pincement quand même, hein. On se demande, est-ce qu'il va être heureux ? Là, on l'avait sous la main, on lui faisait un peu tout ce qu'il voulait. Est-ce que là-bas, ils vont continuer à l'aimer comme nous, on l'aimait, quoi ? Aussi, c'est toutes les personnes qui voient partir les chiens... plus que les chats, parce que les chats, on les manipule moins que les chiens. Hein. Les chiens sont beaucoup plus expressifs que les chats. Et les agents ont toujours mal au cœur, oui.
Chaque départ d'animaux est-il définitif ?
Non. Les adoptants sont prévenus. Quand ils viennent chercher un animal, on les prévient. On leur donne vraiment le côté noir de l'adoption pour bien qu'ils se préparent, qu'ils voient bien les problèmes. Mais il y a des personnes qui nous écoutent ou qui ne nous écoutent pas. Et au bout d'un moment, bon, au bout de 15 jours, un mois, deux mois, ben, on ramène l'animal parce que ça n'a pas été, parce qu'il n'est pas sage, parce qu'il a cassé la maison, parce que ceci. Je crois que quand ça passe pas, l'animal revient tout de suite. Les gens n'ont plus la patience de rééduquer l'animal. Les animaux ont déjà un passé lourd. Ils ont été malheureux. Ils ont parfois été martyrisés. Et ce sont des animaux qu'il faut reprendre au départ, il faut essayer de les remettre sur la bonne voie, de les éduquer. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut beaucoup, beaucoup de patience.
Comment s'est effectuée la rencontre entre les patients d'un hôpital de jour et la SPA ?
La SPA, faut dire que la SPA est là, bien sûr, pour les animaux, mais elle est là aussi pour les humains, les gens. Et donc, moi, je pars du principe que si l'animal peut toujours aider une personne, quelle que soit sa difficulté. Moi, ayant eu un moment de ma vie où ça a été très mal, où j'étais dépressive, j'ai retrouvé une certaine quiétude en allant justement à la SPA en tant que bénévole. Et je passais parfois une heure, deux heures à caresser les chats. D'accord. Parce que ça m'apaisait, je me sentais bien, j'avais l'impression d'avoir un rôle à jouer avec lui, et lui s'en sentait bien, et il y avait un échange entre lui et moi. À partir de là, j'ai dit, bon, bah, pourquoi ne pas aider les autres personnes qui, elles aussi, ont des problèmes. Et donc, quand on m'a proposé de m'occuper de relations animales avec les personnes de la psychiatrie, j'ai dit ok, ça ne peut faire que du bien. Un animal, c'est là, ces gens, ça donne beaucoup d'amour. Et je crois que tous ces gens malades, enfin qu'on dit malades, ont perdu cet amour des autres. Alors le fait de rencontrer quelqu'un qui sait attendre avec à vous, qui sait vous regarder avec des yeux gentils, qui vous écoute, vous pouvez tout lui dire, vous pouvez tout lui raconter. Il ne viendra vous dire le contraire. Et je crois que c'est un grand réconfort. Et on peut se confier à lui, on peut. Alors je crois que l'animal est vraiment très 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 important et plus il y a de problèmes et plus l'animal apporte de solutions.
Est-ce qu'un animal traumatisé peut se sentir bien lorsqu'il est en compagnie de quelqu'un qui souffre psychiquement ?
L'animal qui est malheureux, c'est l'animal traumatisé, il oublie tout. Il n'est pas rancunier, un animal. Il a été malheureux, mais quand il est avec quelqu'un, il oublie tout. Une personne, c'est la même chose. Si quelqu'un a eu des problèmes, quand il se retrouve avec quelqu'un qu'il aime, il oublie tout aussi. Et je crois que s'il y a un échange qui se fait entre deux, même s'ils sont traumatisés tous les deux, je crois qu'ils se sentent bien ensemble et ça efface tout le reste, quoi.
Même s'il est très malheureux au fond de lui,
oui,
cet
oublie
animal.
Tout. Un animal, nous, on a déjà vu des chiens martyrisés. Ils n'en veulent même pas à l'homme. Moi, je crois que si j'étais un chien, le premier homme que je vois, je saute dessus et je le mords. Mais l'animal, au contraire, plus on a l'impression que plus il est martyrisé et plus il est gentil. Mais comment on peut... On comprend même pas ça, mais comment on peut être gentil quand on a souffert comme on a souffert ?
Nous remercions Mme Delannoy pour ce témoignage.
Il était où le gentil Tiyuki ? Où il était le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Il était où ? Où il était le gentil Tikiki ? Et où il est le pépère au Wawa ? Yuki, c'était où c'était son pépère ? Il était où, hein ? Son papa ? Le bon pépère que son Kiki préfère ? Et sa mémère alors ? Et sa mémère ? Où elle est la mémère à sa nounouche ? Elle était où, hein ? Sa mémère ? Qui donne du sucre avec la boubouche ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Il était où le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Le Yuki ? Le gentil Titoutou ? Il était où ?
Où ça, hein ? Où ça ? Où ça, hein ? Où ça ?
Où c'est qu'il était son papi et son pépère ? Où c'est qu'était ? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie ?
Où ça, hein ? Où ça ? Où ça, hein ? Où ça ?
Il était là le bouchou Kiki. Il était là le plus beau des cookies. Il était là qui ? Le beau poupou. Le plus joli de tous les bonoukis. Et c'est à qui tout ça ? C'est à Kiki. À qui c'était les papates poilus ? Il a que hein ? C'était à qui ? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui ? À qui c'était le mignon choupignou ? À qui c'était, hein ? Le beau Yuki ? À son papy ou bien à sa nounou ? Il est à qui ? Hein ? Le Kiki. Il est à qui le gentil Titoutou ? Il est à qui, hein ? Le Yuki. Le gentil Titoutou, à qui c'est qui ?
À qui, hein ? À qui ?
Si c'était pas à son papy, à son pépère, alors à qui il était le Yuki ? Si c'était pas à sa mamie ? Venir ici gros dégoûtant et pas bouger assis de vous coucher à son panier, oh le méchant va te coucher son pépère est fâché. Kiki t'as vu pépère est en colère, le pépère a Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère, avec mémère on n'est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est qui des deux le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie?
C'est qui, hein? C'est qui?
De toute façon, c'était pas le...
Maintenant, Jérôme nous livre son expérience au sein de la SPA.
Cela fait maintenant 2 ans que j'ai découvert la SPA. Par un beau jour de printemps, une personne m'invite à participer à un groupe de bénévoles. Me voilà parti pour une nouvelle aventure. Arrivé sur place, grâce au personnel animalier très sympathique, nous découvrons ce lieu d'hébergement d'animaux. Nous discutons et ils nous donnent beaucoup d'informations afin de cerner les animaux que nous allons prendre en charge. En sortant un chien de son box, je lui offre un espace de liberté. Et au travers des promenades que je fais avec lui, je le rassure par beaucoup de caresses. Je retiens toujours le nom de l'animal avec qui je partage cet instant. Un bien-être réciproque entre l'animal et moi s'installe. Il m'apporte du plaisir. Quant à l'animal, cela va lui permettre de reprendre confiance en l'être humain. Au fur et à mesure des séances, il s'habitue à moi. L'amour que j'ai pour lui permet d'atténuer sa souffrance, sa solitude, ainsi que sa méfiance envers l'homme. Lorsque je ne promène pas les chiens, je m'occupe des chats. Revêtu d'une blouse blanche, j'entre dans l'enceinte de la chatterie et je caresse, je brosse, je parle et je joue avec les chats. Dans l'espoir qu'ils soient adoptés, à chaque séance, ils m'apportent une compagnie, moins de solitude, et je me détends. Ils m'évoquent des souvenirs, par exemple Filou m'a sauvé la vie lorsque j'étais dans un état de désespoir. Il m'a redonné de l'élan pour continuer à vivre. En donnant de mon temps à l'SPA, cela me permet d'acquérir de nouvelles habitudes et de développer la patience et l'attention. Pour être bénévole à la SPA, il ne suffit pas uniquement d'aimer les animaux, ni de ne pas en avoir peur. Il faut faire preuve de disponibilité et ne pas avoir peur de se salir les mains. Il faut prendre conscience qu'il faut les respecter. Il faut savoir faire preuve de compréhension et de gentillesse envers les animaux qui ont parfois souffert. Le message que j'aimerais faire passer auprès des lecteurs et d'auditeurs, venez nombreux pour adopter un animal afin de le rendre plus heureux. Ils ont besoin de nous, mais il faut réfléchir avant l'acquisition de tout animal pour que ce dernier ne soit pas quelque temps après abandonné. Je suis heureux de savoir qu'il existe des personnes s'occupant d'animaux. C'est un message d'amour, de générosité et de solidarité.
Vous êtes sur PFM 99.9 à l'écoute de l'émission L'Atelier du Plaisir. Nous vous proposons d'écouter un micro-trottoir sur le thème de la dépression.
Comment définissez-vous la dépression ?
J'en ai fait une toute petite lorsque j'ai eu du mal au niveau des études, mais à part ça, j'ai jamais fait de grosses dépressions, quoi, de grosses déprimes.
La dépression, ça arrive souvent actuellement. Dans toutes les entreprises, il y a de moins en moins de personnel, les cadences sont de plus en plus rapides. Je comprends qu'il y a beaucoup de dépression partout.
Je pense que c'est un mal-être des gens. On peut aller jusqu'au suicide si on n'arrive pas à le déceler assez rapidement, notamment chez les jeunes. Parce que parfois, ils ne sont pas, disons, ils n'ont pas trop envie de se confier à ceux qui pourraient les aider. Et il faudrait essayer de déceler de manière à ce que ça n'aille pas plus loin.
Maladie psychique pour laquelle je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. Parce qu'on ne sait pas finalement où les dépressifs chopent la maladie, ni pour quelle raison. On ne sait pas toujours vraiment pour quelle raison. On ne se le demande pas. Et je dis qu'ils ont bien des difficultés à la vivre, cette maladie. Oh non, non, non.
Mon âme se mettent à genoux quand les anges s'envolent et ne veillent plus sur nous. Aux armes, je crois bien devenir fou, mais j'irai venger l'amour pour qu'il soit à ton rendez-vous. Ma vie est une larme qui ne cesse de tomber. Ma vie est une femme en pleurs loin d'être aimée. Ma vie est une
Et si un proche aborde le problème de la dépression, comment pensez-vous réagir Et comment vous pensez pouvoir l'aider ?
Bah, moi, je l'envoie chez le docteur. Il y a vraiment des traitements maintenant formidables. En 6 mois, vous êtes guéri. Bon, j'ai eu le tour, alors je peux en parler. Bah, moi, ça m'est arrivé, donc je me suis soigné. Ça a duré 6 mois. Mais quand vous descendez vraiment bas, il faut conseiller les gens d'aller voir le docteur, parce qu'on s'en sort pas tout seul. Impossible. Bah, de toute façon, quand on a une dépression, on n'en parle à personne. On reste sur soi-même. Et pour ça que moi, j'ai attendu trop longtemps. Et puis, bon, j'ai eu des mauvaises pensées à un moment.
Votre entourage?
Bah, ils se demandaient quoi? Mais moi, je disais que ça allait, mais bon, ils se sont bien rendus compte. C'est mon épouse qui m'a emmené chez le docteur, parce que bon, on serait pas sorti tout seul.
Alors, si un proche, déjà, l'écouter, être à son écoute, et puis lui donner des conseils éventuellement.
D'être positif, parce que on ne doit pas penser à quoi ça va être dans une semaine ou quelque chose comme ça, le mois prochain. On doit essayer à penser maintenant, parce que maintenant c'est le plus important.
Bon, les dents du mieux possible, mais je ne sais pas comment faire. C'est pas évident, hein. J'ai eu une collègue qui a été dépressive, qui est toujours dépressive, qui a arrêté de travailler. On avait tout essayé, aller chez elle, la remettre au travail, sans la brusquer, tout doucement, ça a fonctionné un moment, puis après, ben c'est tout, elle a ressorbré, hein. Et on sait pas pourquoi.
Enfin, probablement être entouré avant tout, avoir des amis, pouvoir en parler. Ce qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, d'où certainement la recrudescence des psychologues ces derniers temps. Finalement, un bon ami, ça vous remplace probablement un psychologue, je pense.
Suite aux commentaires récoltés dans les rues d'Arras, Eric va nous apporter son témoignage.
Je m'appelle Eric, j'ai commencé à faire une dépression en septembre 93. C'est à la suite du décès de mon médecin traitant. Il a mis fin à ses jours en août 93. Ce médecin était pour moi un confident, un copain. L'annonce de son suicide a bouleversé ma vie. Je me rends régulièrement sur sa tombe où je me recueille. J'ai fait de nombreuses tentatives de suicide qui ont entraîné de nombreuses hospitalisations en psychiatrie. Puis j'ai eu des troubles obsessionnels compulsifs. Ces troubles m'épuisent et me gâchent la vie. J'appréhende les fêtes de fin d'année, car en cette période, je ressens une profonde tristesse et une grande solitude. Mon désir de mourir est plus fort. Mais aujourd'hui, je me sens mieux. Je sais que je suis encore fragile. Je consulte régulièrement un psychiatre et je vais dans le centre d'activité thérapeutique.
Pour rester en lien avec la dépression, Anne-Marie nous interpelle.
Bien chers auditeurs, aujourd'hui, je viens vous parler d'un théâtre que j'ai fait avec d'autres personnes. Le titre, On s'en fout. Faire du théâtre m'a apporté beaucoup de choses. Nous formons une superbe troupe et j'ai voulu faire ça pour montrer aux gens que les personnes de la psychiatrie sont capables de faire beaucoup de choses. Nous sommes des personnes comme tout le monde, ayant nos soucis de santé. Cette chose qui peut arriver à chacun. Personne n'est à l'abri de cette maladie. Lorsqu'on est hospitalisé, les visites des amis se font rares. Par contre, mon mari et la famille viennent régulièrement, ce qui me réconforte. Beaucoup de gens pensent que nous sommes fous. C'est ce que j'entends autour de moi. C'est très vexant. Je pourrais vous en faire un livre. Merci, chers auditeurs, d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne journée.
C'était Anne-Marie qui a participé à la pièce de théâtre intitulée « On s'en fout » avec d'autres comédiens, dont le docteur Lévesque qui répond à nos questions.
Bonjour monsieur Lévesque, comment vous est venue l'idée de monter cette pièce de théâtre ?
Bonjour, l'idée nous est venue d'ateliers théâtre qu'on avait mis en place depuis déjà plusieurs années au sein de la clinique Aloïs Corbaz, qui fonctionnait bien, qui était appréciée. Et certains patients sont proposés d'aller un peu plus loin dans l'expérience. Et c'est ainsi qu'on a eu l'idée de créer de toute pièce, à la fois l'écriture, mais aussi les répétitions et la représentation, une pièce de théâtre qui finalement s'est appelée « On s'en fout ».
Comment les comédiens ont-ils été choisis ?
Alors les comédiens n'ont pas été choisis, ils se sont choisis eux-mêmes. Il n'y a pas eu de casting. Il y avait, oui, les gens sont, enfin on a d'abord eu la phase d'écriture où un certain nombre de personnes qui ont participé, puis après il s'agissait de jouer la pièce et là les gens, beaucoup de personnes ont tenté l'expérience et puis finalement certaines personnes sont restées et ça correspondait au nombre de personnages. et ils étaient très bien. Donc vraiment, on peut dire que les comédiens se sont choisis eux-mêmes.
Comment avez-vous effectué le choix du texte de la pièce ?
Alors c'est un texte qui a été écrit au cours d'ateliers écriture qui ont eu lieu dans un premier temps, sur à peu près un an, de manière hebdomadaire. On se réunissait avec un certain nombre de patients et qui amenaient des idées. Et après, on a essayé de mettre ça en forme. Et le choix de la pièce s'est fait petit à petit au cours des séances, sans qu'il y ait d'idées préconçues ni de préformatage. Ça s'est fait au gré de l'imagination des uns et des autres.
Aviez-vous des messages à faire passer à travers cette pièce ?
Pas directement. L'idée, c'était de montrer que des personnes qui ont des problèmes à un moment donné de leur vie, d'ordre psychologique, ou sont capables peuvent produire quelque chose et construire quelque chose. Donc l'idée, c'était un peu l'idée de déstigmatiser l'image de la psychiatrie, de la maladie mentale. Bon, c'était pas un message direct, hein, puisque le thème de la pièce ne parle pas réellement de ça, mais l'idée derrière ça, c'était quand même de montrer que, de prouver que les gens étaient capables et de faire quelque chose qui était très bien.
Avez-vous constaté une évolution du bien-être chez les personnes ?
Encore une fois, je pense que c'est surtout eux qui doivent le sentir. En effet, je pense qu'on a partagé quelque chose de fort. Mais ça a été vraiment un échange, je pense, autant dans les personnes qui sont intervenues dans la création de cette pièce que pour les acteurs qui étaient sur scène, qui étaient en effet à ce moment-là plus du tout des patients, mais bien des acteurs. Et je pense que ça leur a apporté beaucoup.
Quels ont été les moyens pour monter cette pièce, s'il vous plaît ?
Alors, les moyens ont été essentiellement humains, puisque ce sont les gens qui l'ont joué qui ont amené l'essentiel des moyens, c'est-à-dire leur propre personne, leur travail et leur émotion. Après, évidemment, on s'est entouré d'un certain nombre de professionnels pour la mise en forme de la pièce, pour aussi la mise en scène. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont aidé à amener un peu de professionnalisme et donner un résultat tout à fait intéressant. Donc des moyens techniques pour l'essentiel, avec des personnes, des professionnels. Et puis il y a eu aussi deux danseurs professionnels qui sont aussi intervenus. Les moyens financiers ont été obtenus grâce à une subvention, notamment, et pour l'essentiel, une subvention des programmes régionaux de santé qui ont vraiment permis de mettre en place et d'aboutir à la création de la pièce de théâtre.
On disait aussi qu'il y avait une partie des bénéfices qui partaient dans un autre pays.
Oui, donc il y a une partie des bénéfices. Je vais plutôt laisser Mélanie Vasseur en parler.
Donc en effet, en fait, les acteurs de la pièce de théâtre ont émis le souhait de vouloir apporter aux autres une aide. Alors, par le biais là, donc, des recettes des deux spectacles qui ont été joués. On a choisi ensemble d'aider un hôpital en Mauritanie, dans la ville de Nouakchott, pour développer le service de psychiatrie en Mauritanie, parce que c'est vraiment là-bas quelque chose qui n'est pas du tout encore considéré. Donc ça, c'était un souhait de l'équipe d'acteurs, et on a pour projet donc de continuer à essayer, en tout cas d'avoir un maximum d'argent pour pouvoir envoyer là-bas un maximum de dons, en fait.
Nous remercions Monsieur l'évêque et Madame Vasseur, et nous vous proposons maintenant des témoignages sur le ressenti de comédiens.
Un soir, comme ce soir, c'était un soir. Il faisait noir dans ma tête, où pétait une sacrée déprime, et j'ai voulu sauter d'un pont. C'était sublime. Ouais, mais avant que je ne saute, des ouvriers, sûrement des potes, on fait sauter ce petit fripon de pont. Je me suis retrouvé en bas, dans l'ombre, par un roulé-boulé sur les décombres. Personne n'a cru mon aventure. Ils disaient tous que j'étais mûr. Alors, j'ai tout dit à un psy. Je ne sais pas s'il m'a cru, lui. Mais il m'a trouvé si délirant. Qu'en guise sans doute de calmant, il m'a conseillé le théâtre. Cette pièce, on a dû se battre pour la faire ensemble. Avec amour. Clyde.
Le théâtre, quelque part, c'est un navire qui nous transporte dans le lointain pays des sourires et des rires, loin de nos blouses et de nos chagrins.
Théâtre, ça rime avec se battre contre ses stress, ses faiblesses, ses maladresses, et pour vous voir en liesse. Le théâtre, c'est aussi un espoir de dire en toute liberté nos façons d'entendre et de voir dans la fraternité.
Le théâtre, c'est enfin un combat contre les idées reçues, pour la réhabilitation ici-bas de ceux que la société a exclus.
À vous tous ici présents, merci pour vos encouragements. Et nous ne vous quittons que dans un seul espoir, celui de tous ensemble bientôt nous revoir.
Ici ou ailleurs, ailleurs ou ici, du fond du cœur, encore merci.
Le théâtre, cela aide à prendre du recul quand, par mes quelques questions qui lui sont opportunes et parallèles, j'avance en ce constat formel de mon évolution. J'en positive par leur assimilation à l'élaboration d'un tel loisir de groupe, d'équipe, de personnel hospitalier, de recherche subjective et intéressée dans l'art et l'application du souffle en interne. Par la qualité inaltérable de l'éclat, quand on est libre, peut-on être plus libre ? La liberté, c'est de ne pas le montrer. Être libre, c'est avoir un ami qui a du recul pour m'en voir. Le cinéma, ce sont les yeux du réalisateur aux sources théâtrales. C'est en cela que le théâtre est un bénéfice pour l'aspirant, sans les artifices du soupirant. L'apport optimal des représentations intitulées « On s'en fout », pour moi, ce serait d'adducter à ma première ressource, ma profondeur captative et saisissante, toute la rame de mon désir indépendant et ininflammable au feu, sous le projecteur d'un plateau de cinéma, à l'émotion d'un réalisateur soigné de ma sensibilité, le docteur pour un avenir de la sphère irrésistiblement féminine.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien voir les comédiens voir.
Vous êtes sur PFM 99.9. À présent, un micro-trottoir sur l'augmentation des mutuelles de santé.
Qu'est-ce que vous pensez du déremboursement des médicaments, de certains médicaments?
Ça, c'est pas normal.
Là, c'est triste, hein, parce que bon, ben, c'est vrai que c'est comme toujours, c'est toujours les ouvriers qui payent, hein. Alors que maintenant, ben, quand on n'a pas d'argent, on ne va pas se soigner. De toute façon, moi, je vois ça comme ça. Hein.
C'est pas normal, hein.
Ça met, ça creuse un peu plus le fossé entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas, quoi.
Il faut pas tomber malade, je dirais. Hein.
Bah, ça devient triste. Je pense que ça commence à inquiéter un petit peu les gens. Hein.
Mauvais système. C'est nous qui payons, comme toujours.
Ça avantage les plus riches, comme d'habitude.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie. Tôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps. Quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante. Et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien.
Notre planète, sur le fil, est à prendre à bras le corps. Voici des avis recueillis dans les rues d'Arras.
Bonjour monsieur, voilà, je suis bénévole à la radio PFM et je voudrais vous poser quelques questions si vous le voulez bien. Voilà, je voudrais savoir quels gestes vous pouvez adopter pour sauvegarder la planète actuellement, s'il vous plaît.
S'occuper de la gestion des déchets, essayer de moins consommer d'énergie. Essayer de recréer de la biodiversité là où on peut en recréer en agissant sur le paysage.
Et on évite d'allumer le climatiseur parce que moi je suis dans un pays où ça fonctionne pas mal le climatiseur quand on ne l'utilise que pour la nuit ou pour la sieste.
Le tri des déchets par exemple. Ou alors aussi économiser un peu l'eau, pas faire couler la douche trop longtemps par exemple, le robinet quoi. Voilà.
Alors là, je sais pas, c'est de pas tout jeter à terre, c'est ça, non?
Si vous avez, vous, des...
Mais dans les poubelles, ce qu'il faut pas jeter à terre, le plastique et tout, je pense, non?
Bah, je sais pas, faire du compost, je sais pas, vous quoi d'autre, acheter sans emballage, par exemple.
Allez, tri sélectif pour commencer, c'est le plus simple. C'est le plus simple à faire, et puis tout le monde devrait le faire, chose qui n'est pas toujours faite.
Là, comme aujourd'hui, je suis venu en bus au lieu de prendre la voiture, tout simplement pour aller en ville, c'est plus rapide et plus pratique aussi, et plus écolo.
Le tri sélectif, notamment. Puis sinon, j'évite de chauffer outre mesure, j'évite de me déplacer trop en voiture, quand je peux, je viens à pied, comme ici au boulot.
Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie. Ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens dans la panique ont déclaré l'état d'urgence. Quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse. Les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim. Quand retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.
Après ce micro-trottoir sur l'environnement, Nathalie nous donne son point de vue.
Préserver notre planète. La planète est en détresse. Le réchauffement de la planète entraîne
des inondations, des tremblements de terre, des incendies, des océans qui envahissent les terres, des risques de pandémie, de la pollution et bien d'autres choses encore. Tous ensemble, réagissons. Comment ? Chacun à notre façon, par des gestes simples et quotidiens. Lesquels ? Économiser l'eau, par exemple, à savoir prendre une douche au lieu d'un bain, arrêter l'eau quand on se lave les mains, les dents ou la vaisselle, car 3 minutes d'eau qui coule au robinet, c'est 30 bouteilles de 1 litre et demi qui partent à l'égout. De même qu'une petite fuite de chasse d'eau de robinet représente 4 litres d'eau par heure. Utiliser un limitateur de débit sur les robinets, sur les chasses d'eau, récupérer l'eau de pluie. Autre geste encore, fermer la lumière quand on quitte une pièce. Trier ses déchets, journaux, verres, piles, bouteilles plastiques, canettes d'aluminium, etc. Faire contrôler son véhicule, le filtre à air, le pot d'échappement. Utiliser les transports en commun, le vélo, faire de la marche, ce qui permet un gain d'argent, voire de temps. Démarrer son véhicule doucement, ce qui évite de la surconsommation et des rejets polluants. Utiliser un panier ou des sacs écologiques pour ses courses. Ne pas jeter ses papiers à terre, chewing-gum, mégots et autres. Car par exemple, pour un mégot de cigarette dans la mer, celui-ci mettra 3 ans à se dégrader. Un chewing-gum, 5 ans. Une canette d'aluminium, plus de 100 ans. Et une bouteille en plastique, plus de 400 ans. Pensez aussi aux dégâts que peut provoquer un mégot de cigarette jeté à terre et à peine éteint. Car chaque été, dans le bassin méditerranéen, 500 000 hectares de forêt partent en fumée. Faire du compost en empilant en tas différents déchets culinaires, les épluchures, mais aussi les tontes de jardin, par exemple. En effet, les déchets se décomposent naturellement et peuvent ensuite être utilisés dans le jardin pour fertiliser et renforcer le sol, ce qui évite l'utilisation des engrais chimiques. Le monde végétal est vital pour l'ensemble du monde vivant. N'arrachez pas des plantes sans raison. On peut aussi baisser la température d'une pièce de 1 degré, ce qui permet de réaliser jusqu'à 10% d'économie, car le chauffage est responsable d'un tiers des dépenses énergétiques des ménages. Avoir une bonne isolation de son habitation est aussi important. Je vous ai suggéré quelques gestes à faire et parfois les conséquences de ne pas les appliquer. Cependant, la liste est encore bien longue. Mais vous trouverez, chacun au fond de vous, ce que vous pouvez adopter comme geste à effectuer pour protéger notre planète. N'oubliez pas que la Terre est unique. Quelques gestes suffisent à contribuer à sa sauvegarde. Tous ensemble, changeons nos habitudes. Nous contribuerons ainsi à préserver la planète pour les générations à venir. La planète est le bien de l'humanité. En prendre soin donne un sens à sa vie.
Notre joie. Musique.
À présent, tout pour la musique, avec une passionnée, Béatrice Coton, directrice du secteur musique de la médiathèque d'Arras.
Quel est le but de l'espace musique de la médiathèque ?
C'est un service culturel de la ville d'Arras. La vocation, c'est bien entendu d'essayer d'ouvrir au maximum la curiosité du public. Donc essayer de les emmener sur des sentiers pas utilisés habituellement. On a aussi la vocation de tout simplement d'offrir la possibilité de trouver des informations. Donc la musique, ça en fait partie. Donc on a un but aussi utilitaire, si je puis dire. Par exemple, il y a des gens qui viennent emprunter des disques pour animer leur soirée ou pour faire un montage de leur film ou pour leurs études, bien entendu, ou simplement de loisirs.
Quelles sont les conditions pour emprunter les CD ?
Alors, pour emprunter des CD, tout le monde peut venir. Hein. La médiathèque n'est pas un service qui est réservé aux Arrageois, parce que la médiathèque est municipale. Mais l'emprunt de CD est payant, donc sous forme d'abonnement forfaitaire annuel. Et effectivement, on a un tarif pour les Arrageois et un tarif pour les extérieurs. À chaque fois, il y a un tarif fort et un tarif réduit. Donc, par exemple, pour les Arrageois, le tarif normal, c'est 15 euros pour l'année. Et le tarif réduit, c'est pour les élèves scolarisés jusqu'à la terminale et pour les demandeurs d'emploi. Dans ce cas-là, c'est 3 euros. Et une fois que l'inscription est faite, on peut emprunter tout ce que l'on veut. Le maximum de disques qu'on peut emprunter à la fois sur le site du Palais Saint-Va, par exemple, c'est 4 CD.
Comment procède-t-on dans le choix des CD ?
Notre public est très large. On a des adhérents qui aiment le classique, le jazz, la variété, enfin toutes sortes de choses. Et même à l'intérieur de chaque genre, par exemple dans le classique, on a des gens qui n'aiment que l'opéra ou que la musique baroque. Donc quand j'achète les CD, il faut que j'ai présent tout ça à l'esprit. Donc l'idée directrice, c'est vraiment d'offrir un large choix qui soit représentatif de la richesse de la production musicale.
Quel style de musique est le plus écouté en ce moment ?
Voilà, là, c'est très, très, très variable. Si on parle simplement des grands genres musicaux tels que le jazz, le rock, la variété, la chanson française, moi, je dirais quand même que immanquablement, c'est toutes les musiques pop-rock qui sortent davantage, encore que la chanson, elle est pas loin derrière, la chanson francophone. Les musiques classiques ou jazz ont un bon public, mais elles sont quand même largement derrière. On a une large collection de musiques du monde, donc ça fonctionne bien aussi. Et après, il y a des genres qui sont moins représentés, donc forcément, quantitativement, ça, au niveau des prêts, c'est un petit peu identique. Mais donc pour répondre précisément à la question, c'est quand même donc les musiques rock, pop rock et tout ce qui est nouveauté.
Quelle tranche d'âge fréquente la discothèque ?
Alors là aussi, le public est largement diversifié, mais la grande majorité des gens qui empruntent, c'est soit des scolaires étudiants, on va dire. Après, c'est vraiment, on va jusqu'à, parce qu'on a, des personnes qui sont relativement âgées qui viennent.
Avec le téléchargement sur Internet, est-ce une concurrence pour la discothèque ou bien est-ce complémentaire ?
Alors ça, c'est des questions très très difficiles. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça inclut, il y a de nouvelles pratiques de nos publics. Et nous, on sent très fort la baisse des prêts en ce qui concerne la musique. Et c'est évident que le téléchargement, ou en tout cas la pratique de l'écoute sur Internet, a des répercussions sur les prêts, on va dire classiques, d'un support tel que le CD.
Qu'est-ce que vous pensez de l'expression « la musique adoucit les mœurs » ?
Alors là, c'est pas quelque chose de courant comme question. C'est très original, je trouve. Alors, qu'est-ce que je pense de ça ? Je pense que tout dépend de la musique. Je suis pas sûre que la musique adoucit les mœurs, parce que sauf si, bien entendu, on écoute la musique qu'on aime, qu'on apprécie. Mais moi, je trouve qu'il y a des musiques agressives ou tout simplement, quand on n'est pas en état psychologique d'écouter certaines musiques dont on peut se sentir agressé. Je pense que c'est un mensonge de dire que la musique adoucit les mœurs.
Que vous apporte la musique ?
Alors moi, elle m'apporte énormément de choses. C'est-à-dire que si j'avais pas la musique, je sais pas comment je ferais. Parce que ça fait tellement longtemps que je la porte en moi, quand je les porte en moi, puisque j'aime beaucoup de musiques différentes. Ça fait tellement partie de ma vie que c'est le genre de questions que je me pose pas, tu vois. Je crois que je pourrais pas vraiment, enfin si, je pourrais vivre sans musique, mais je serais pas véritablement moi-même.
D'où vient votre passion de la musique et du chant?
Alors, ça remonte à loin. En fait, quand j'étais enfant, petite fille, on m'a, entre guillemets, obligée à prendre le piano. Enfin, disons, c'était pas, ça venait pas vraiment de moi, donc j'ai appris le piano. Puis en grandissant, j'ai continué ce piano. Puis en fait, ça m'a déterminé mon orientation professionnelle. Donc une passion de mes parents, enfin de ma mère en l'occurrence, m'a orientée professionnellement. J'ai fait des études musicales. J'ai rencontré mon mari comme ça, tu vois. Et puis je me suis orientée avec lui dans le métier du disque.
Savez-vous passer une journée sans musique, sans chanson?
Alors, ça serait vraiment très très difficile. Je crois que ça m'arrive jamais. D'abord parce que dans le cadre professionnel, je suis forcément amenée à écouter de la musique. Par exemple, bon, j'achète les disques et après je les écoute pour pouvoir les indexer, pour les connaître tout simplement, pour pouvoir aussi les conseiller. Quand le service est ouvert de la musique, il y en a dans la discothèque, hein, donc on en entend. Donc déjà, quand je travaille, forcément, je ne peux pas y échapper. Et puis, de la musique, j'en ai tout le temps dans la tête, même quand il n'y a pas de radio ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que si j'étais sur une île déserte, je serais en train de chanter. Ça me manquerait beaucoup, hein, de ne pas entendre de musique et puis pas entendre des instruments, d'autres personnes qui chantent, etc. Ça me manquerait énormément. Mais je pense que je compenserais certainement en chantant beaucoup.
La musique vous aide-t-elle dans votre vie personnelle?
Écoute, franchement, là aussi, c'est une question que je ne me pose pas. Je ne sais pas si elle m'aide. C'est tellement évident que ça fait partie de ma vie. Alors, je ne sais pas si elle m'aide. Quand je ne suis pas bien, j'écoute quand même de la musique. En général, de la musique triste.
Quand même.
Oui, de la musique triste. Et puis, ça m'aide à évacuer dans ce cas-là. Ce n'est pas de la musique pour me consoler.
Vos activités personnelles ont-elles aussi des liens avec la musique?
Forcément, en fait. Je crois que vous l'aurez compris. La musique, c'est une passion, ce n'est pas seulement un métier. Et je pense que quand métier et passion se confondent, moi je n'ai qu'une seule vie, donc en dehors de ma vie professionnelle, moi je suis toujours Béatrice qui aime la musique, donc bien entendu je fais de la musique en dehors de mon travail à la médiathèque d'Arras. J'ai fait partie d'associations par le passé, par exemple j'ai longtemps été dans une association de jazz qui s'appelait Jam, il n'existe plus maintenant. J'y étais au début et pendant bien plusieurs années. Aujourd'hui, je fais partie d'une autre association qui s'appelle Didouda, mais qui est une association de chansons, dans laquelle je me sens particulièrement bien dans l'esprit de cet asso. Enfin, ça me correspond bien parce que il y a un côté sympathique en plus en plus du chant et d'aller assister aux concerts proposés par l'association, puis de participer aussi au choix, enfin à plein de choses. Et notamment dans Didouda, c'est une association qui a la particularité d'offrir la possibilité de chanter, mais de chanter individuellement, hein, c'est pas du tout une chorale. Et que je me suis retrouvée, j'ai fait le tout premier stage proposé par Didouda de chant individuel. Et que je me suis piquée au jeu, que j'ai fait plusieurs stages et que j'ai que maintenant j'anime, enfin j'aide aussi les autres à chanter.
La création de la musique est-elle infinie?
Alors là, je sais pas. J'aimerais bien le penser. J'aimerais bien penser que oui. C'est sûr qu'elle est d'une avec quelques notes en définitive. On a inventé, en tout cas depuis des centaines d'années, même des milliers d'années, plein de choses différentes. Surtout si on pense aussi aux musiques qui sont pratiquées dans les autres cultures. Ceci dit, la musique qu'on écoute, nous, quelquefois on a l'impression quand même de certaines redites. Ou en tout cas, l'aspect nouveauté, il n'est pas toujours seulement sur la musique elle-même. Des fois, c'est aussi sur tout ce qui entoure la musique, sur le look, sur le fait si c'est à la mode ou pas la mode.
Merci à Béatrice Coton. Pour terminer cette émission, Myriam nous livre un texte de chanson de Fabio, Vivre sa vie.
Vivre sa vie de Fabio. On se cherche, du matin jusqu'au soir, on se recherche. On met tout dans l'espoir de découvrir ce que sera le devenir. On avance sans jamais bien comprendre l'existence, mais on essaie de suivre ses tendances en espérant qu'on ait de la chance. On fait des choix sans trop savoir à quoi ça nous mènera, jusqu'où on ira. On voudrait bien savoir où se finit ce chemin que l'on suit et pouvoir enfin vivre sa vie, vivre sa vie. On s'invente des rôles juste pour meubler l'attente d'arriver un jour en haut de la pente et de goûter à la détente. On se découvre des passions, des folies auxquelles on s'ouvre, mais il y en a toujours qui nous désapprouvent, et c'est le doute qu'on retrouve. On fait des choix sans trop savoir à quoi ça nous mènera, jusqu'où on ira. On voudrait bien savoir où se finit ce chemin que l'on suit, et pouvoir enfin vivre sa vie, vivre sa vie. On se réveille, un jour ou l'autre on sort de son sommeil, et on comprend ce qui nous émerveille. Après la pluie vient le soleil. Et on se dit que qui ne cherche rien a tout compris. Prendre le chemin qu'on a suivi, c'est simplement vivre sa vie. Vivre sa vie, on fait des choix sans trop savoir à quoi ça nous mènera, jusqu'où on ira. Vivre la vie, vivre la vie, vivre sa vie.
Tu n'as rien qu'une guitare, entre destin et hasard, tu fais la tournée des bars pour qu'on t'offre un coup à boire. Tu leur chantes des rengaines, ça balance et ça entraîne. Tu fais valser leurs problèmes et c'est pour ça qu'ils t'aiment. T'as le tempo, t'as le tempo, t'as le tempo dans la peau. T'as le tempo, t'as le tempo, t'as le tempo dans la peau. T'as le tempo, t'as le tempo, t'as le tempo dans la peau.
Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission L'Atelier du Plaisir, à laquelle ont participé Isabelle, Anne-Marie, Nathalie, Myriam, Eric, Jérôme et Clan.